Rwanda is a Hutu land.
Et le génocide démarre aussitôt.
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
La première victime que j'ai vue à la barre, je suis sortie de sa déposition liquéfiée.
Je lui ai expliqué que son trauma était comme un abcès qui va empirer.
The plane of the president had crashed.
Cette semaine, le Rwanda.
On l'appelle le pays des mille collines. Depuis trois jours, le Rwanda est redevenu le pays des carnages.
De l'attentat à l'opération.
L'opération turquoise, entamée depuis 24 heures au Rwanda, se déroule dans des conditions satisfaisantes.
Ils voulaient tuer aussi les enfants tutsis, surtout les garçons, pour les empêcher plus tard de se venger.
Ce que les forces gouvernementales rwandaises ont commis n'est rien d'autre qu'un génocide.
Un génocide, où qu'il survienne, c'est un projet politique.
Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui en fonction de la situation.
Un génocide est une entreprise d'extermination mise en œuvre par un État contre une partie de sa propre population. Par sa nature même, il échappe à l'entendement et provoque la sidération et l'incompréhension. Cette incompréhension appelle elle-même le doute. Et le doute fait le lit de la négation. Dans l'inconscient collectif, des années après ce jour fatidique d'avril 1994, où le Rwanda a basculé, le génocide des Tutsis du Rwanda est encore largement perçu comme un massacre interethnique, comme si deux camps antagonistes, mus par une haine ancestrale, s'étaient alors entretués. La réalité est bien différente. Orchestré par une clique de responsables politiques, d'intellectuels et d'officiers supérieurs, ce génocide s'est déroulé à l'image d'une véritable chasse à cour. D'un côté, des chasseurs, de l'autre, le gibier. Pour faire comprendre cette traque, pour appréhender au plus près l'épouvante ressentie par les protagonistes de ce drame majeur de l'histoire contemporaine, la parole va être laissée à ceux qui vécurent les premières heures, les premiers jours de ce génocide. C'est le cœur du prochain documentaire d'Histoire vivante.
The plane of the president had crashed.
J'ai appris la chute du président Habyarimana, j'étais dans un cabaret, c'était le soir. Alors c'est à ce moment-là que les gardes présidentiels qui étaient avec moi, avec qui nous partageons un peu de bière, m'ont dit que c'est l'heure qui est venue pour l'élimination des Tutsis.
Petit à petit, moi, j'ai intégré la nouvelle, quoi. J'ai compris que c'était ça, mais que les choses allaient devenir très, très, très dangereuses pour les Tutsis, surtout, quoi.
Et à ce moment-là, l'agence associée de presse me demande, pour qui je travaillais à l'époque, me dit, OK, Jacques, tu te mets sur pied de guerre demain matin, tu vas prendre ton visa et tu pars au Rwanda dès que possible.
Nous avons un message de l'ambassade de France, des autorités. Absolument, il est absolument interdit de sortir des maisons. Jusqu'à nouvel ordre.
Et donc, du coup, j'ai entendu que l'avion d'Habyarimana a été abattu. On s'est regardés tous les trois. Et moi, j'ai dit, ils vont nous tuer tous.
Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État, son Excellence, le général-major Habyarimana Juvenal, survenu ce 6 avril 1994 vers 20h30. L'appareil qui le ramenait de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non identifiés et dans des circonstances non encore élucidées.
Donc, 5h30 du matin, mitraillette, on commence à entendre des mitraillettes. On sort, on voit que dans la rue, des gens se promènent avec des machettes. On commence à s'apercevoir que, tout le quartier est quadrillé, des individus patrouillent les rues avec des machettes.
Dehors, on entend des bruits, mais des bruits des miliciens qui hurlent, on entend des voitures passer, mais on ne sort pas. En tout cas, moi, je ne sors pas, je reste dans la maison parce que je suis Tutsi et que je sais très bien qu'à la moindre occasion, on va me tuer ou on va me torturer.
Le matin du 7 avril, je me réveille, et puis évidemment, bon, j'avais pas très bien dû dormir. Et puis, la première chose dont je me souviens, c'est que je suis sorti à la terrasse du CND, donc là où on se tient pour voir la ville, etc. Et on regarde dans la vallée, en bas, et là, on voit les scènes, mais vraiment, les massacres. On regardait comme ça, mais une horreur absolue. C'est de voir les gens se faire tuer. Nous regardions tout ça horrifiés en se demandant « Mais qui va donc arrêter ça ?»
Un extrait de « 7 jours à Kigali », le nouveau documentaire d'Histoire vivante, à découvrir dimanche prochain sur RTS2. Quant à nous, cette semaine, nous reviendrons sur l'opération Turquoise, opération humanitaire lancée par la France, objet aujourd'hui d'une contre-enquête journalistique. Pour commencer un premier entretien, le journaliste Jean-Philippe Seppi est au micro de Pierre Hazan.
La Suisse de l'Afrique. C'est comme ça qu'était surnommé le Rwanda, avec ses collines vertes, sa parfaite organisation et ses minorités. Et puis on sait ce qu'il est advenu. Les 800 000 hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés, qui ont été exterminés, souvent à la machette, durant ces 100 jours de 1994. Jean-Philippe Seppi, vous êtes l'un des premiers journalistes occidentaux arrivés sur place. Et 20 ans plus tard, comment tout cela résonne en vous encore?
Alors cela résonne avec force. Évidemment, chaque fois que le souvenir est évoqué, j'ai des flashbacks, des scènes très fortes. Et puis ça résonne d'autant plus que 20 ans plus tard, on a le sentiment que la justice commence à bouger. Et que nous, journalistes, sommes souvent appelés à répéter ces souvenirs, à les décrire, à les détailler, à les préciser, à revenir en fait sur 20 ans en arrière, à rouvrir nos notes, à reconstituer mentalement avec précision ces moments vécus. Donc 20 ans après, je dirais que c'est encore tout aussi vivace ou presque.
Connaissiez-vous le Rwanda avant avril 1994 ?
Pas du tout. Je n'y avais jamais été, non.
Et dans quelles conditions arrivez-vous ?
Alors les conditions sont celles d'un correspondant sur place. Les correspondants sur place sont un peu les ouvriers qu'on appelle et qui doivent partir le plus rapidement possible. J'étais correspondant donc en Afrique, où j'avais déjà séjourné longtemps, en Afrique australe. Donc je ne connaissais pas le Rwanda, mais l'Afrique, oui. Plutôt bien, je pense. Et la radio kényane à Nairobi, où j'étais basé, annonce le crash de l'avion. Donc le 7 avril au matin, plus précisément... la radio l'annonce, et traditionnellement, tous les correspondants à Nairobi s'activent, cherchent des avions, à louer des taxis, cherchent une porte d'entrée au Rwanda. Et mon cher collègue Jean Hélène, qui était correspondant de RFI et du Monde, aujourd'hui malheureusement décédé, tragiquement en Côte d'Ivoire, qui connaissait bien la région, me dit « Nous n'arriverons pas à rentrer au Rwanda par avion, par l'aéroport ou par le nord, essayons par le Burundi ». Et nous sommes donc partis le soir du 8 avril, par avion, atterri à Bujumbura tard dans la nuit, et nous avons traversé la frontière dans la nuit du 8 au 9 avec un taxi de Bujumbura qui a roulé jusqu'à Butare, à l'extrême sud du Rwanda, qui était tranquille, et où nous avons passé la nuit dans cet hôtel.
Il y a beaucoup de tensions, on entend des tirs, des explosions, grenades aux meurtriers. J'ai des indications qu'il y a des maisons qui sont pillées. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qui tire contre qui à ce stade, c'est impossible. La sécurité est telle qu'on ne peut pas se permettre de se déplacer, c'est simplement trop dangereux pour tout le monde. Et puis évidemment pour cette nuit-là, alors on craint le pire.
Donc vous arrivez pratiquement le 9 à Kigali ?
Absolument. Le matin du 9, j'ai le temps d'envoyer un papier à la radio romande et nous prenons un convoi avec un gars dont je ne me rappelle plus le nom, qui était vétérinaire et qui venait d'être nommé nouveau ministre, je crois, de l'agriculture et qui ne savait pas bien, dans le fond, s'il était convoqué à Kigali pour être exécuté ou pour occuper une charge de ministre. Et je me rappelle de ce gars qui était littéralement pétrifié pendant tout le trajet. Et effectivement, nous prenons la route, les distances sont courtes, nous prenons la route après le petit déjeuner le matin et nous arrivons à Kigali... en début de matinée du 9.
Et que voyez-vous sur la route ?
Alors, le long de la route, rien, puisque le génocide a gagné le sud du Rwanda les jours suivants. Mais en arrivant par le sud, à Kigali, assez rapidement, j'aperçois les premiers cadavres au bord de la route, recouverts là d'un linceul, d'un drap. Et ayant peu d'expérience du Rwanda, je pose la question, on s'arrête avec la voiture, je pose la question à des voisins, je pose la question à... Nous échangeons avec mon collègue Jean-Hélène, et je vois des yeux horrifiés, on me dit « Comment, tu ne sais pas, ça a commencé ?» Et je comprends que ce sont les premiers cadavres que nous allons voir, et que plus loin, eh bien, ce sera une succession de cadavres dans les rues. On m'a posé souvent la question de comment se présentaient les cadavres, et durant ces premiers jours... Ceux que nous avons vus, c'était soit des cadavres épars le long des routes, mais déjà dévorés par les chiens, en particulier au cœur de Kigali. Et puis, les deux situations dans lesquelles j'ai vu des cadavres en masse, déjà le 10 avril, c'est à l'hôpital central de Kigali, où là nous avons compté environ 400 cadavres, où la morgue était déjà pleine à craquer au point que la porte ne pouvait plus se fermer. Et puis également à la petite chapelle de Gikondo, où là nous avions compté à peu près 70 cadavres, 70 cadavres. Le dimanche.
À l'étranger, le président du Rwanda et celui du Burundi tués dans un attentat. Leur avion a été pris pour cible par des tirs de roquettes.
Sont morts en même temps. Le président du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui on ne sait pas encore.
Pour l'instant, on ne sait pas qui est à l'origine de ce qui a tout l'air d'un attentat. À peine la nouvelle connue, Kigali s'est enflammée. Et la communauté francophone suit avec une certaine crainte les combats qui ont éclaté depuis ce matin.
Essayons de rappeler quelques événements. Donc, le 6 avril, l'avion du président Habyarimana se fait exploser. Le président meurt. Hein. C'est le déclenchement dans les heures qui suivent. En fait, souvent on dit le lendemain. Le 7 avril, le début du génocide des Tutsis, de la minorité Tutsi et des opposants Hutus. Et vous arrivez donc le 9 à Kigali. Et très vite, le lendemain, le 10 avril, vous écrivez un article qui s'appelle « Dans Kigali, livré aux tueurs Hutu ». Et pour la première fois, vous allez utiliser le mot « génocide ». Vous êtes le premier à le faire. Comment ce mot s'impose à vous à ce moment-là ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 48 heures de travail, évidemment, vous ne voyez que des informations parcellaires, ce sont des flashs. Mais tout de même, nous avons le temps de passer quelques coups de fil à Kigali, nous avons le temps d'aller à l'hôtel des Mille Collines, par exemple, où se trouvent déjà des réfugiés qui racontent déjà ce qui leur est arrivé. Nous avons le temps, j'ai le temps, par exemple, de passer un coup de fil à un collègue journaliste rwandais, réalisateur, qui est piégé chez lui par les Interahamwe et qui me raconte ce qu'il va vivre, qui me dit « je vais mourir ».
Qu'est-ce que c'est les Interahamwe ?
Les Interahamwe sont donc les miliciens payés, formés par le parti présidentiel, qui sont souvent de jeunes garçons recrutés à coups de bière et de quelques francs, et qui sont à la solde du président. C'est très populaire en Afrique, hein, les présidents se payent des milices, des jeunes, avec des t-shirts, etc., qu'il est facile ensuite d'armer, de lancer contre n'importe quel assaillant. Et donc, le mot génocide, comment est-ce qu'il s'est imposé ? Eh bien, visuellement, lorsque vous voyez, dans un premier temps, une pile de 400 cadavres, tous les mêmes, on dira, en gros, qu'on vous désigne assez rapidement le fait que ces gens ont été, dans les premières heures, pourchassés sur la base d'une carte d'identité, en fonction de leur faciès.
Exécutés à la machette, ces corps sont ceux de civils appartenant pour la plupart à la minorité Tutsi. Nous sommes dans les environs de Kigali et les Hutus contrôlent l'identité de tous les passants au barrage. Gare à celui qui n'appartient pas à la bonne ethnie.
Vous avez déjà des témoignages hein, en 48 heures qui vous confirment ça. On vous dit, on nous a demandé de présenter une carte d'identité. Vous avez déjà l'intuition, n'est-ce pas, que ces gens sont visés en fonction d'une particularité qui n'est pas simplement l'ennemi de classe ou un ennemi politique. Et puis je crois que le mot génocide s'est imposé à moi en ayant passé un peu de temps avec Philippe Gaillard, qui était le représentant du CICR.
Le chef de délégation ?
Le chef de délégation qui avait liberté...
Du comité international de la Croix-Rouge.
C'est cela, qui avait liberté de parole de la part du siège de Genève et qui nous accueille très vite, le samedi après-midi. Philippe Gaillard nous accueille au siège du CICR à Kigali avec Jean-Hélène. Il est effondré, il reçoit des informations du reste du pays, ses sous-délégations l'informent de ce qui se passe par radio et il nous donne des chiffres immédiatement assez effrayants. Et autant que je m'en souvienne, c'est lui qui lâche pour la première fois le mot... génocide. Et fort de cela, il nous propose le lendemain, donc le 10, de revenir avec une délégation du CICR qui va collecter les derniers corps en ville. La condition qu'il met, c'est qu'il nous fournira une croix rouge, un calicot, une croix rouge à mettre sur nos t-shirts, mais pas d'appareil de photo, ni de crayon, ni de stylo, ni quoi que ce soit. Et nous nous retrouverons donc le 10 pour faire cette fameuse collecte de cadavres à l'église de Gikondo, où nous aidons littéralement les humanitaires à faire leur travail. Donc ce mot génocide s'est imposé comme ça, et j'avoue qu'en l'écrivant, on m'a souvent posé la question ensuite, je n'avais pas le code pénal en main, ni la jurisprudence internationale. C'est un mot effectivement qui s'est imposé à moi sur la base de 48 heures de travail.
L'horreur au Rwanda. Notre envoyé spécial Jean-Philippe Seppi a parcouru les rues de la capitale Kigali ce matin. Des rues peuplées de cadavres où les actes de sauvagerie n'ont pas cessé. Jean-Philippe Seppi.
Écoutez, ce matin, je suis donc arrivé hier. Et hier déjà, nous nous sommes rendus à l'hôpital central de Kigali où nous avons constaté l'étendue de l'horreur qui se passe dans cette ville. Déjà sur la route de l'hôpital, les cadavres jonchent les rues. Ils sont partout. Et il y a des montagnes de cadavres, particulièrement dans les quartiers populaires. Nous nous sommes rendus ensuite à l'hôpital central de Kigali, où les médecins sont absolument épuisés, à bout de nerfs, n'en peuvent plus, complètement débordés, n'ont pas assez de véhicules pour soigner tous ces gens qui arrivent. Il a fallu ensuite, bien sûr, aller à la morgue pour constater l'étendue des dégâts. Et là, je vous passe les détails, mais je crois qu'il faut les donner quand même. Nous avons constaté qu'il y avait là 400 corps, horriblement, abominablement trucidés. À coups de machette, à coups de balle de fusil, à coups de tournevis, à coups de couteau, 400 corps empilés. La porte de la morgue ne pouvait pas être fermée parce qu'il y avait trop de corps. Et ce matin, nous sommes à nouveau rendus dans cet hôpital. Et la panique est telle que certains blessés qui ne sont pas encore décédés sont parfois enterrés avec les morts dans la panique. Ce matin, nous nous sommes également rendus dans une paroisse qui a été attaquée par des hordes de pillards encadrées par l'armée. Et dans cette église, dans un quartier populaire, nous avons trouvé 70 cadavres de Tutsi, donc la minorité minoritaire ici à Kigali, qui avaient été sauvagement assassinés, torturés, massacrés. Les femmes, les enfants jonchaient l'église. Certains s'étaient réfugiés dans les caves et avaient été achevés à la grenade. Je vous dis, moi-même, j'ai posé évidemment mes notes, mon carnet de notes, et nous avons aidé les infirmiers à débarrasser les blessés, les morts, les cadavres, et à les amener à un hôpital qui était déjà trop surchargé. Sur la route, nous avons croisé des hordes de pillards, la machette à la main, les couteaux à la main, les bâtons à la main, qui ont été pillés les stocks des médecins, les stocks de l'aide humanitaire. Juste à côté de la paroisse dont je vous parle, il y a un magasin de vélos et des hordes de jeunes gens, toujours encadrés par l'armée, par la gendarmerie, complètement ivres de bière, de chanvre, de drogue, se sont attaqués à cette usine et ont pillé tout ce qu'ils pouvaient piller.
On nous a annoncé ici qu'il y avait un cessez-le-feu. Est-ce qu'il est respecté à Kigali ?
Non, alors ce que je peux vous dire à l'heure où je vous parle, c'est que le cessez-le-feu n'est absolument pas respecté. D'une part, nous entendons à côté de la maison où nous sommes des rafales qui sont très souvent des exécutions sommaires. La chasse aux Tutsis a été lancée donc depuis plus de 48 heures par les Hutus, par les extrémistes Hutus, par l'armée également. Et chaque fois qu'un Tutsi est pourchassé, il est sauvagement assassiné et tué. Alors ce sont des rafales que nous entendons juste à côté de où nous sommes ici. Et d'autre part, eh bien, il y a des tirs à l'artillerie lourde, puisque à l'entrée de la ville, les rebelles du Front populaire du Rwanda tentent de prendre la ville et sont opposés actuellement à l'armée du Rwanda.
Vous vous souvenez de ces jours, en fait, c'était le 10 avril ?
C'est ça, le 10 avril au soir, je suis en contact avec la radio romande après effectivement 48 heures de travail. Oui, je m'en rappelle tout à fait bien. Je me rappelle en particulier de ces scènes fortes de l'hôpital que je décris à ce moment-là, et puis également de cette église. Je me rappelle d'une séquence que je n'ai pas pu évoquer à la radio, c'est celle effectivement d'un jeune homme qui était encore vivant dans cette église de Gikondo, dont le crâne était ouvert à moitié comme une pastèque, dont on voyait vraiment la chair, qui avait un début de paralysie dans le bas des jambes, mais qui vivait encore. Et nous l'avons porté parce que, très honnêtement, les humanitaires qui étaient là craquaient. Ils étaient tétanisés, littéralement, en larmes, incapables de faire leur travail, pour certains. Et Jean-Laine et moi avons porté ce jeune garçon, qui devait avoir une quinzaine d'années, l'âge de mon fils aujourd'hui. Et les gens s'entassaient dans une espèce d'ambulance, et eux-mêmes étaient tellement tétanisés que nous avons dû littéralement pousser ce demi-cadavre à l'intérieur de cette camionnette en hurlant de lui faire de la place pour qu'éventuellement on puisse le sauver. Et effectivement, nous avons là déjà, en tant que journaliste, été appelés à sauver des gens. Vous êtes déjà intervenant. Ce que je décris dans cet extrait, ce sont ces gens piégés derrière une porte en métal à la cave. Visiblement, les miliciens n'ont pas pu passer par cette porte, mais ont trouvé une embouchure au-dessus de la porte. Et pour achever les gens, ont balancé des grenades. Et certains ont survécu, nous avons aidé, et d'autres sont décédés. Oui, oui, je m'en rappelle très bien.
Depuis 3 jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Il y a 300 personnes, hommes, femmes, vieillards.
Ce matin, à 500 mètres de l'aéroport, 8 corps gisent dans leur sang. 4 hommes et 4 femmes de la minorité Tutsi viennent d'être massacrés à coups de machette sous les yeux d'étrangers évacués. Les soldats français en armes qui assuraient la sécurité du convoi n'ont pas bougé. Leur mission spécifie clairement qu'ils ne doivent prendre parti pour aucun des belligérants.
Qui sont ces génocidaires que vous décrivez comme ivres de bière ?
Alors, je ne les connaissais pas, évidemment. Ce que l'on voit, ça donne le sentiment pour qui a voyagé en Panafrique de ces jeunes garçons désœuvrés qui vont de l'âge de 10, 12 ans à 20 ans, souvent en guenille. Et ce que nous voyons là immédiatement, il y en a un qui m'a frappé en particulier. C'est qu'au moment où nous faisons ce travail dans cette église, dans cette chapelle, alors que ces scènes de pillage se déroulent à l'extérieur, que nous voyons de l'autre côté de la petite barrière qui nous sépare de la rue, eh bien, tout à coup, l'un de ces jeunes garçons s'arrête, rentre dans l'enceinte, la machette à la main. Il se dirige vers moi. Moi, d'une manière peut-être un peu inconsciente, très fâché, comme un parent qui va gronder un enfant, je me tourne vers lui, je vais vers lui, je lui dis « Regardez ce que vous avez fait, vous êtes fier. » Je sens une haleine d'alcool chargée, une nuit de pillage, d'horreur, de massacre. Et lui me regarde, l'air abattu, triste, et me dit « J'en ai marre. » Et c'est la première confrontation que j'ai avec un de ces deux Interamwe, un sentiment d'orgie dans les deux sens du terme, où l'alcool, la drogue, mais aussi l'orgie du sang, du viol, se mêlent dans une espèce de fièvre, de folie destructrice, maléfique. Et ce jeune garçon s'est retourné, il est reparti avec sa machette, rejoindre ses camarades. Voilà mon premier contact avec eux. Et puis ensuite, j'ai eu de nombreux contacts. Également après le génocide, des contacts dans les camps de réfugiés en particulier, où là, ces garçons étaient beaucoup plus bravaches, avaient repris le dessus, avaient le sentiment de mener une vraie guerre.
L'une des tragédies de ce génocide, c'est qu'il a été commis par des centaines de milliers de gens. On parle de 250 000 génocidaires qui ont aussi agi parce qu'ils ont été ordonnés de le faire, incités à le faire, qu'il y a une propagande haineuse qui les a travaillés au corps. Racontez-nous un peu ce système qui a conduit à cet infernal processus et au fait que le Rwanda va devenir un véritable abattoir à ce moment-là.
Alors il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a évidemment ce qu'on voit sur le moment et puis ce que révèlent ensuite les enquêtes. Ce qu'on ne voit pas, c'est les notables. C'est après qu'on a su que les notables étaient finalement en grande partie impliqués. J'évoquais ce que l'on voit dans les rues africaines très souvent, c'est-à-dire des garçons désœuvrés, des filles parfois, qui n'ont rien à faire, souvent sans famille, sans travail évidemment, qui cherchent des mauvais coups, comme dans toutes les grandes villes du monde. En Afrique, c'est particulièrement évident et il est particulièrement facile, je crois, d'acheter ces jeunes qui sont facilement malléables. Et je crois que l'étincelle a commencé comme ça. L'étincelle, ça a été des chefs de gang qui avaient des bandes. Ces fameux Interamwe étaient dans le fond des espèces de petites structures de type bande, hein, gang dans une petite ville, même comme Kigali. Il suffit de leur donner des armes, de la bière, et c'est l'étincelle. Vous avez ensuite l'exemple des adultes, où très classiquement, vous avez l'armée qui encadre. Et l'armée était visible ou invisible. Invisible dans le sens où on ne la voyait pas intervenir pour calmer ses troupes, mais au contraire, encadrer. Et assez rapidement, moi, l'image des Sonderkommando utilisés par Hitler dans les zones en particulier d'Europe de l'Est m'est apparue, où le sale travail était accompli par ces miliciens qui connaissaient souvent les gens du quartier, qui avaient tous de petites rivalités, de petites haines, une fille qu'ils avaient désirée, qui s'est toujours refusée à eux, et enfin, elles pouvaient débarquer en bande avec leurs machettes pour attraper ces filles. Ça s'est passé par exemple à Boutaré, où enfin le Tutsi, un peu plus aisé que les autres, qui bravait le quartier avec sa nouvelle voiture ou ses nouveaux meubles, eh bien, ça y est, on allait lui montrer qui était le plus fort. L'alcool aidant, l'espèce de caution donnée par les adultes représentés par l'armée, qui encadrait ces espèces de Sonderkommando, je crois, a donné une espèce de légitimité à ces jeunes, à ces bras armés, pour se lâcher complètement. Et puis ensuite, la fièvre a gagné, dans le fond, toute cette classe populaire, d'abord, défavorisée, il faut le dire, pauvre, bourrée de rancœur, de frustration. Et c'est parti du chef de gang en gagnant la voisine et parfois le père, la mère, sans pouvoir être arrêté. Et on a su plus tard que tout cela, dans le fond, était plus structuré que ça en avait l'air. Il s'agissait de donner l'étincelle et ensuite de diriger l'orgie en lui donnant à la fois les armes pour s'épancher et également les cibles à toucher.
On nous cherche rapidement 100 000 jeunes pour que nous tuions les agents du FPR et que nous les exterminions. L'extermination sera d'autant plus facile qu'il s'agit d'une seule ethnie. Par exemple, tu n'as qu'à regarder la taille de la personne, sa physionomie. Tu n'as qu'à seulement regarder son petit nez fin et le casser. Pour finir, prenez vos machettes, prenez vos lances, faites-vous épauler par les soldats. Les agents du FPR, tuez-les, exterminez-les, parce qu'ils sont maudits.
Vous continuez à écouter RTLM, Radio Libre et Indépendante.
Il y avait les médias de la haine aussi.
Absolument, alors c'est une omniprésence. Là aussi, beaucoup d'ambiguïté, c'est-à-dire que la radio accompagne la fête. On sait que c'est Radio des Mille Collines qui a beaucoup d'influence, et Radio des Mille Collines a joué sur un double discours. La musique, c'est-à-dire que Radio des Mille Collines diffusait beaucoup de musique lingala, ce qu'on appelle la musique lingala, la musique zaïroise, très entraînante, qui fait danser les gens, qui accompagne, hein, les gens écoutent RTLM dans les champs, à la ville, etc. Et rapidement, cette radio, naturellement, s'installe dans les barricades, et elle accompagne, elle met en joie les gens grâce à cette musique très particulière. Et puis, entre la musique, eh bien, les jingles, comme on dit en radio, ce sont ces appels à la haine, ce sont ces discours politiques qui invitent les gens à finir le travail.
When people ask me, good listeners, why do I hate all the Tutsi? I say, read our history. The Tutsi were collaborators for the Belgian colonists. They stole our Hutu land. They whipped us. Now they have come back, these Tutsi rebels. They are cockroaches. They are murderers. Rwanda is our Hutu land. We are the majority. They are a minority of traitors and invaders. We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels. This is RTLM, Hutu Power Radio.
Et à certains moments, vous cessez presque d'être journaliste pour venir en aide à des rescapés qui sont parfois entassés sous des tas de cadavres.
Alors c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé 3 ou 4 jours plus tard, puisque je décide de quitter Kigali pour suivre l'évacuation des ressortissants étrangers, et parce qu'il est quasiment impossible de travailler dans Kigali à ce moment-là. Et donc je rentre sur Nairobi, et je décide de rejoindre justement le Front Patriotique Rwandais, qui est en train de prendre la ville ou d'assiéger la ville. Et souvent, dans ces cas-là, eh bien, les journalistes essayent de passer de l'autre côté pour avoir plus d'informations. C'est ce que je fais. Je rejoins donc l'arrière des rebelles. Et les rebelles marchent vraiment, chassent l'armée rwandaise régulière. Et à cette occasion, je suis embedded, on dirait aujourd'hui, avec un bataillon du FPR. Et avec la petite patrouille avec laquelle nous sommes, nous tombons sur une fosse commune, déjà. C'est aux alentours du 19 avril, si je ne me trompe pas. Et là, la scène est la suivante. Nous arrivons, un voisin vient nous chercher, paniqué, apeuré, nous appelle. Et nous tombons autour d'un puits, sommaire. C'est un trou, un immense trou. Je connais bien les puits en Afrique, ils sont très profonds pour aller chercher la nappe phréatique. En général, ils font bien 10 jusqu'à 50 mètres, avec une certaine largeur qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Et nous entendons des cris qui proviennent de ce puits, et il s'agit en fait d'un puits chargé, rempli de cadavres, avec une dizaine de survivants, que nous sortons du puits, et j'ai le réflexe journalistique à ce moment-là, parce que j'ai un peu travaillé quand même dans les zones de guerre avant, d'isoler les premiers rescapés, de les interviewer immédiatement. J'avais un micro de radio pour éviter qu'ils soient dans le fond débriefés, récupérés, par les officiers de renseignement qui sont aussi avec nous. Et là, je capte vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée, à chaud, à vif. Et le premier rescapé me raconte qu'effectivement, pour faire court, eh bien, les Tutsis de la ville ont été entassés dans cette église, ont cru trouver refuge dans cette église. Comme par le passé. Les Intemoa Ramwe, encadrés par l'armée, sont arrivés, ont commencé à les liquider, un à un, à la grenade, à la machette parce que les balles devaient être économisées. Et puis, les miliciens et l'armée en épargnent 10, dont le travail va être pendant toute la journée de porter les corps et les jeter dans le puits. Ce monsieur me dit qu'ils ont fait ça tout l'après-midi, ce qui vous donne aussi un ordre d'idée sur la comptabilité. On nous dit 800 cadavres. Évidemment, ce sont des chiffres qu'il faut vérifier, sur le moment difficile à vérifier, si ce n'est d'après la profondeur du puits, sa largeur et le travail qui a été accompli pendant toute une après-midi. À la fin, donc, ces porteurs de cadavres sont forcés de se jeter eux-mêmes dans le puits. Et pour les achever, on jette des grenades pour les finir. Et il se trouve qu'ils ont survécu à peu près presque une semaine, puisque nous sommes quasiment une semaine après cette attaque, au sommet de cette pile de cadavres. Les premiers membres attaqués d'un corps humain, quand on se trouve dans cette situation, c'est les yeux. Les mouches sont telles qu'elles attaquent les yeux, même les yeux vivants. Les gens que nous sortons ont les yeux dévorés par les mouches. Je ne sais pas s'ils sont restés aveugles ou s'ils ont pu en sortir. Ensuite, c'est la soif, évidemment, qui vous achève. Certains sont morts après, eux sont totalement assoiffés. Et enfin, il y a la peur. Quand on les sort, ils ne savent pas dans le fond si les gens qui les ont sortis vont les achever ou s'ils sont sauvés. Voilà. Ce témoignage a eu une immense importance puisqu'il a fait l'objet très récemment d'un procès en Allemagne, le premier procès pour génocide en Allemagne.
Vous avez témoigné dans de nombreux procès en Allemagne, en France récemment.
Et en Suisse.
En Suisse aussi. Pensez-vous que cet effort de justice porte ses fruits ?
Alors je pense qu'il est capital, oui, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Je crois que le monde occidental a au départ également regardé avec un tout petit peu de condescendance ce qu'ont fait les Rwandais eux-mêmes. On avait l'exemple de la commission Vérité et Réconciliation qu'avaient fait les Sud-Africains, qui a suscité l'admiration du monde, malgré tout. Les Rwandais, eux, ont introduit ces fameuses gachacha, une espèce de justice populaire, qui finalement est un exercice intéressant qui a permis une sorte de réconciliation, une sorte de justice immédiate sur place. Et je crois vraiment que ce qui se passe dans nos pays respectifs, également par rapport à la justice internationale, est la troisième couche de tout cela, ou la deuxième couche. Et que même si elle apparaît 20 ans plus tard, elle a vraiment sa signification, à condition d'être médiatisée, d'être comprise par les gens sur place. Et je crois vraiment que l'idée, et ça c'est une notion en Afrique qui est importante, mais également en Asie, l'idée que finalement, le temps n'a peut-être pas la même mesure que chez nous occidentaux, civilisations pressées par définition, et que dans le fond, 20 ans, c'est rien du tout. Le fait de savoir que les gros poissons croupissent en prison, que le colonel Bagosora, qui était finalement reconnu pour avoir été l'instigateur principal du génocide, soit condamné à la perpétuité, je pense que c'est important pour le Rwanda, c'est important pour l'exemple. Oui, j'y crois beaucoup, et je suis heureux, moi, de pouvoir, à ma très modeste mesure, contribuer à cet exercice de vérité.
Vingt ans ont passé, et comment vivez-vous toujours avec les images de ce génocide ?
Alors, à titre tout à fait personnel, j'ai eu un traumatisme, sans doute, qui était reconnu, déterminé. Le fameux PTSD, le syndrome post-traumatique, les cauchemars qui reviennent de manière récurrente, un certain détachement par rapport à son travail, en particulier son travail de journaliste. On dit que pour un journaliste, disons, couvrir un génocide, plus rien après n'a d'importance dans son travail de génocide. Comment voulez-vous couvrir la politique agricole de la Suisse ou même les votations du 9 février ? Mais on se reconstruit. J'ai eu l'occasion très rapidement ensuite de couvrir justement le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Les images étaient moins fortes, il s'agissait de récits, mais ça m'a pareillement impressionné, submergé. Et le temps passe, fait son effet. Et je dirais qu'aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'images, en particulier dans le cas du Rwanda. Je m'interroge sur l'exercice historique qui est mené maintenant. Je m'interroge sur mon travail de journaliste à l'époque. Je fais un travail d'autocritique. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous réclame vos notes, on vous réclame des détails sur ce que vous avez écrit à l'époque, dit à l'époque, c'est important. Or, à l'époque, on n'est pas forcément conscient qu'on va faire l'histoire, et une histoire qui aura sa signification judiciaire, sur la base de laquelle une cour va peut-être condamner à perpétuité quelqu'un, c'est important. Et dans le fond, on n'en a jamais fini avec cette histoire, jamais.
Opa, camarade, opa. Que peut chanter un enfant miraculeusement rescapé des tueries ? Que peut-il chanter, sinon un refrain guerrier repris en une lancinante ritournelle ? Où l'a-t-il entendu ? Dans sa famille ? Auprès des soldats ? Comme lui, ils sont des dizaines, souvent orphelins, à s'entasser dans cet hôpital de Kigali. Refuge précaire, à portée de tir. Ici, on ne sait jamais si on sera vivant dans l'heure qui suit. Le Comité international de la Croix-Rouge tente, dans des conditions extrêmement difficiles, de soigner les blessés.
Il s'appelle Genève, vraiment. on arrive à suivre. Je veux dire, qu'est-ce que c'est 250 blessés à Kigali, alors qu'il y a sans doute des centaines de milliers de personnes qui sont mortes, des deux ethnies, de toutes les tendances politiques, et que c'est pas fini, que ça continue. On a des témoignages qui nous arrivent tous les jours, soit d'un côté, soit de l'autre, comme quoi les massacres continuent. Alors je veux dire, ici c'est un petit peu, pour l'instant, un havre de paix, malgré les ordres de Staline qui passent par-dessus les toits de l'hôpital et de la délégation. On touche du bois, on se croise les doigts. Les deux parties savent où on est. Les deux parties nous ont promis que ni la délégation ni l'hôpital du Cimetière ne seraient touchés. Ils ont quand même dit qu'il y avait parfois des erreurs de tir et qu'ils n'étaient pas à l'abri de ce genre d'erreurs.
Des erreurs de tir, elles se multiplient. Un obus est tombé ce matin sur l'hôpital du Comité international de la Croix-Rouge, tuant deux employés, blessant d'autres personnes. Au pas, camarades, au pas. À Kigali, la mort est toujours en chemin.
Histoire vivante, cette semaine, le Rwanda. De l'attentat à l'opération.
Albert Nambadje est psychologue rwandais et belge. Son témoignage a été recueilli le 5 novembre 1996.
Dans une clinique, on a une vue de chirurgien où la plaie est la plus horrible. On se demande comment survivre face à une horreur aussi monstrueuse. Tu te demandes comment un gamin peut encore s'accrocher à la vie. C'est un acte de foi. Je connais une rescapée de 21 ans. Sa famille a été massacrée, elle-même laissée pour morte au milieu des cadavres. Sa mâchoire a été cassée par un coup de machette. Un chiffon masque la bouche. Cette pauvre fille, je me dis parfois, aurait mieux fait de mourir. Mais elle s'accroche à la vie et je suis obligé d'y croire pour lui faire croire aussi. Elle a été violée par une cinquantaine d'hommes. Un jour, elle m'a dit « Je suis trop faible. J'ai peut-être la vilaine maladie. » Personne n'avait osé lui dire qu'elle avait le sida. Nous le savions tous. Des examens avaient été faits. Mais on ne lui avait pas communiqué les résultats. Elle a finalement appris la vérité. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je dire à ma parente? Si elle apprend que je vais mourir bientôt, elle aura peur. Elle ne voudra plus de moi. Elle ne m'a gardé que parce que j'étais porteuse d'avenir. Elle va me mettre dehors. Alors elle n'a rien dit. Elle a gardé son angoisse pour elle-même. Elle a commencé des cours de couture. Avec humour, elle dit « Quelqu'un m'a payé les cours, je ne vais quand même pas gaspiller cet argent-là. » Comment a-t-elle une telle force ? Je suis l'un des premiers Tutsis à avoir été admis à l'université de Butare. Après avoir usé de pistons incroyables, jusqu'au niveau ministériel. J'étais le seul à trouver cette situation injuste. Je demandais à tous les étudiants « Tu trouves cela normal ?» et aucun n'était choqué par cette politique où un Hutu qui rate un examen est admis et un Tutsi qui le réussit est exclu. Lorsque j'ai terminé mes études, je me suis présenté pour un job. Je me disais, j'ai une chance, le patron est un Belge. Il m'a dit, je regrette, mais j'ai reçu des ordres, je ne peux pas engager de Tutsi. Je ne veux pas aujourd'hui que simplement les acteurs changent, mais que le scénario reste le même. Je ne veux pas être comptable seulement des injustices que j'ai subies, mais pas de celles des autres. Sinon, qui suis-je ? Un garçon ne voulait pas parler. Il voulait retourner à l'école, mais faisait des crises. Je lui expliquais que son trauma était comme un abcès qui va empirer. Il a parlé. Ce fut comme l'enfer de Dante. Son père avait été tué 2 ans auparavant. Son oncle est venu à la maison, sentant le danger qui approchait. Il a dit à sa mère, « Donne-moi les 2 plus grands enfants, je vais essayer de les mettre à l'abri. Avec les 4, tu ne pourras pas t'en tirer. » La mère hésite, puis accepte. Quand ils franchissent la porte de l'enclos, ils sont attrapés et massacrés. Cachés dans un arbre, le 3e a tout vu. Il voit son oncle et ses 9 frères tués à la machette. La mère sort et dit « Tuez-moi ». Les Inter à Amway tuent d'abord l'enfant qu'elle porte dans son dos, puis la battent à mort. Le 3e a tout vu, tout entendu. Il passe la nuit dans l'arbre. Je ne veux pas laisser les corps se faire dévorer par les chiens. À 5h du matin, il descend, met les corps de côté, les recouvre de branchages. Il a 13 ans. Le corps de son oncle est trop lourd. Il le traîne et le recouvre d'herbe. Il décide ensuite de courir chez sa tante. Sa tante et ses enfants sont en train de brûler dans la maison. Est-ce que l'on peut vivre avec cela? Le travail de thérapeute n'est-il pas trop prétentieux? L'enfant va aujourd'hui à l'école. Pour qui j'étudie? Demande-t-il. Qui suis-je? Moi, le psy. Je suis coincé. C'est mission impossible. Le mot génocide est un raccourci anesthésiant. Le génocide, c'est un vécu. C'est une tragédie individuelle multipliée par chaque drame personnel. Lorsque j'ai vu à la TV en Belgique 1 million de réfugiés menacés par la famine, le choléra à Goma, alors qu'il n'y avait pas eu d'image du génocide, je ne sais pas quelle folie m'a pris. Je me suis dit, pourquoi je ne récolterais pas de l'argent pour ces enfants qui crèvent? Pourquoi il n'y a que les Blancs qui feraient ça? J'ai exposé mon idée. Quelqu'un m'a répondu, laisse-les voir ce que c'est que de perdre un bébé. Le génocide a rendu les gens cyniques. La réconciliation avec un tueur. Qui est assassin? Qui ne l'est pas? Qui a montré du doigt la cachette? Les rescapés confondent Hutu et tueur. Si la justice ne se fait pas, risque de vengeance. Il faut commencer par la réconciliation avec soi-même, gérer ses propres émotions. Il faut un discours politique clair pour qu'il n'y ait ni oubli du génocide, ni vengeance. La question pour nous est de savoir si nous traversons encore une période de latence. Certains voient du sang dans la bouillie qu'ils sont en train de manger. À la vue de machettes, des gens parfois tombent. Ils ont des images intrusives, s'évanouissent. Ils ont l'odeur du sang qui revient lorsqu'ils parlent. Leur modus vivendi est ébranlé. Mais rapidement, le sommeil revient. Et les cauchemars s'estompent.
L'abbé Modeste Munguarareba, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Rwanda, son témoignage a été recueilli le 6 novembre 1996.
De ma cachette, j'ai vu dans ma paroisse de Boutaré de bons catholiques qui venaient à la messe se lancer à la chasse aux Tutsis, la machette et le fusil à la main. Il m'aurait tué sans autre s'il m'avait trouvé. Je me disais, si je vais chez tel ou tel, il va me cacher. Et soudainement, je voyais cet ami faire partie de la horde meurtrière. Je me disais, est-ce que les masques tombent ? Est-ce que cette haine était toujours là ? Il y a un mystère du mal. Freud dit que les hommes sont une bande d'assassins. En chacun de nous sommeille un monstre. Je renonce à comprendre. Aujourd'hui, le monde et les assassins nient cette réalité. J'ai essayé d'engager la discussion dans ma paroisse sur ce qui est arrivé. Sans lumière, on ne peut pas bâtir un pays nouveau. Je n'ai revu aucun des assassins que j'avais observés à l'œuvre. Ils sont partis aux Zaïre. À la cure, on buvait des bières ensemble. Le gouvernement avait mis les Hutus devant un choix. Faire partie de ceux qui meurent ou de ceux qui tuent. Je n'ai jamais entendu l'expression d'un remords. Ma colline est déserte. Mon père, ma famille, fini, mort. Si je retrouve un assassin qui me dit « Écoute, Modeste, c'est moi qui ai tué ton père », je pleurerai. Je me dirai « Cet homme revient à l'humanité, il refait surface. » Le drame, c'est qu'ils jugent que leur travail de meurtrier n'est pas encore fini. Une fois, j'ai vu à Vombi un homme venir de lui-même se dénoncer à la brigade. Pour moi, il revenait à l'humanité. L'officier a dit « Il faut lui faire un dossier et que personne ne le touche. » Si j'en voyais plus, je me dirais « Nous sommes en train de guérir. » Durant 9 jours, j'étais caché dans la sacristie. Je me nourrissais d'hosties et d'un peu d'eau. Je lisais le livre de Jérémie, le chapitre « Les Lamentations ». Autour de moi, j'entendais les cris, la mort qui rôde. Je me disais, s'ils me trouvent, je leur parlerai avant qu'ils me tuent. Je leur demanderai, êtes-vous devenu fou ? Avez-vous perdu la raison ? J'avais très peur. Si peur que j'avais de la peine à respirer, j'étais noué. Alors je me suis couché pour mieux respirer, mais je n'ai pas perdu la foi durant ces jours. Après, plus tard, lorsque vous pensez à la dureté des cœurs, à la résistance, à la vérité, à l'occultation de la réalité, alors vous vous posez des questions sur l'homme, et vous commencez à douter de Dieu aussi. Peu d'hommes d'église ont tué, mais beaucoup mettent une monstrueuse énergie à cacher l'horreur, à cacher la vérité. Ils disent « Il faut voir le bien ». Mais c'était un génocide. Le monde aussi veut échapper à la vérité, car le génocide, c'est l'œuvre de l'homme. On demande aux victimes de ne pas se venger. On demande beaucoup aux victimes. La loi prévoit que les coupables qui passeront aux aveux auront des peines réduites. C'est bien. C'est la meilleure manière de sortir des ténèbres, de les voir revenir à l'humanité. Si on ne guérit pas, cela recommencera. Le génocide a été précédé par des massacres dans les années 60. Seule une justice juste permettra la réconciliation. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice, bonne ou mauvaise. Il n'y a rien. Il y a la souffrance. Les pauvres êtres qui ont perdu leur famille et leurs biens. Les pauvres airs qui ont été embrigadés par les planificateurs du génocide et qui croupissent dans les camps de réfugiés où le racisme et la haine continuent de fermenter. Beaucoup de rescapés trouvent la loi sur le génocide trop clémente. Moi non. Je suis contre la peine de mort. Même contre les cerveaux et les ingénieurs du génocide. Ça sert à quoi de les tuer ? Il y a eu des actes de vengeance. Les victimes deviennent contaminées par leurs bourreaux. Ils ont été inoculés du même mal. la violence est mimétique. On en a ras-le-bol d'être Tutsi ou Hutu. Nous avons été désignés comme une minorité. Il y en a marre de ces classifications ethniques. Il faut retrouver l'homme rwandais. Il faut traverser la vague de démémorisation qui nous a scindés. Nous avons intériorisé la grille de lecture des colonisateurs. Nous devons sortir de l'aliénation.
Autre témoignage, celui de Saint-Frose, 30 ans, cheveux courts, très douce. Chez elle, dans la banlieue de Kigali, un petit village, une fosse commune pour 450 corps. Certains voisins assassins sont toujours là. Son témoignage a été recueilli le 11 novembre 1996.
Les génocidaires prient beaucoup. Peu ont le courage de demander pardon. De toute manière, c'est Dieu qui me pardonne, pas les hommes. Moi, j'ai pardonné. Mes voisins sont venus chez moi. Ils ont fouillé. Ils ont pillé. Ils veulent se réconcilier. Je le vois à des signes. Lorsque ma clôture est tombée, quelqu'un l'a remise en place. Nous étions entourés par les Intera Amwe. Ils avaient des fusils, des machettes, des grenades. Ils ont lancé des grenades. On s'est réfugiés dans un corridor. Ils sont entrés dans la maison. Sous mes yeux, ils ont tranché la gorge de mon mari. Ils ont tué ma sœur. J'ai eu le temps de fuir par la porte de derrière. J'étais enceinte de plus de 8 mois. J'avais un fils, Vincent, né en 1990, et Aimable sur mon dos, né une année plus tard. J'ai couru chercher refuge chez le chef du secteur. Il n'a pas voulu. J'ai continué à courir. La garde présidentielle tirait autour de moi. Des miliciens ont essayé de me violer, mais ils n'arrivaient pas parce que j'étais trop enceinte. Finalement, la garde présidentielle m'a amenée dans un centre. Une vieille femme a appelé les Intera Amwe pour me tuer. Mais Dieu était là. Personne n'est venu. Les combats se sont rapprochés. J'ai fui à Boutaré. J'ai marché pendant 5 jours avec mes fils et mon ventre. J'ai accouché sur la route en arrivant. Je suis tombée inconsciente, malade de la dysenterie, faible. Je me suis réveillée. Il n'y avait plus mes enfants. Lorsque la situation a permis, je suis revenue à Kigali. J'ai fait tous les orphelinats de la ville. Au dernier moment, on m'a dit que mes enfants sont à Bujumbura. J'ai été là-bas. 4 mois avaient passé. Ils ne m'ont pas reconnue tout de suite. J'ai donné un bonbon à celui qui avait 4 ans. Il a dit « C'est maman ». Ma fille s'appelle Benita. Cela vient de bénir. Mon fils a des problèmes. Il a reçu des coups et une épaule ne grandit pas. Le chirurgien est trop cher.
Saint-Froze sort de son sac, bien plié, une lettre du HCR disant qu'elle est bien la mère des deux enfants et qu'elle les reprend. Demain, début de notre semaine consacrée au Rwanda et à la contre-enquête réalisée par la journaliste Laure de Vulpian sur l'opération Turquoise. Cette thématique est réalisée par Jérôme Nussbaum.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Pierre Azan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jérôme Nussbaum et les voix de Adrienne Butti-Bucciarelli, Yves Yeni et Mathieu Lotte. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant 026 323 24 24. Vous écoutez la première, il est 21h.